Bonjour Mathieu pour le journal Mathieu Laurent.
Bonjour Julie et bonjour à tous. Qu'il soit mis un terme à l'extermination en cours en Syrie, ce sont les termes du pape François lors de sa bénédiction Urbi et Orbi, correspondance de Rome. La direction de la SNCF a livré il y a quelques minutes ses projections pour mardi, 48% de grévistes selon son directeur général adjoint. Invité de cette édition, Jean-Marie Pernaut, spécialiste des mouvements sociaux et syndicaux. Second tour de la présidentielle au Costa Rica, un pasteur évangéliste opposé au mariage entre personnes de même sexe face à un candidat de centre-gauche. Le dogme et l'exclusion viennent percuter la candeur d'un pays soucieux des droits de l'homme. Explication de Nabila Hamel. Depuis la fin de matinée, aucune information de nature à préciser les termes de l'accord qu'auraient signé les représentants de l'organisation Jaïch al-Islam et des négociateurs russes. Accord d'évacuation et des civils et des combattants de Douma, la grande ville de la Ruta orientale. Accord évoqué et par la télévision pro-régime et par l'ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La Syrie et ses drames, Gaza et 16 Palestiniens tués avant-hier par les tireurs d'élite israéliens lors du premier jour de la marche du retour. Ce sont deux des indignations articulées par le pape François lors de la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, suivie par notre correspondante à Rome, Mathilde Lamberti.
La Syrie est la première terre de conflit, citée lors de la bénédiction Urbi et Orbi 2018. L'extermination doit cesser, implore le pape François.
Aujourd'hui, nous demandons des fruits de paix, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Que la lumière du Christ éclaire les consciences de tous les responsables afin que soit mis un terme immédiatement à l'extermination en cours.
Faisant écho aux affrontements de Gaza, 16 morts vendredi, il dénonce des conflits ouverts en Terre Sainte qui n'épargnent pas les personnes sans défense. Puis le chef de l'Église catholique égrène la longue liste de pays tourmentés qui n'a guère évolué depuis l'an dernier. Le Yémen, l'Ukraine, le Venezuela. Il s'attarde aussi sur les souffrances de l'Afrique et les causes des migrations.
Ces parties du continent africain tourmentées par la faim, par des conflits endémiques et par le terrorisme, que ne manque pas la solidarité pour les nombreuses personnes contraintes à abandonner leurs terres et privées du minimum nécessaire pour vivre.
Le pape appelle en particulier au dialogue dans deux États africains, République démocratique du Congo et Sud-Soudan, deux États où elle souhaiterait se rendre prochainement.
Vers la fin de la grève des médecins des hôpitaux au Zimbabwe, un mois de conflit et à la clé des augmentations de salaires portant sur les astreintes et des permanences de nuit. Les autorités du Bangladesh ont commencé à déplacer 100 000 réfugiés Rohingyas, à les conduire vers des zones épargnées par la mousson. La mousson attendue au mois de juin provoque quantité de glissements de terrain et des inondations. Ils ont plusieurs points communs, leur nom de famille, Alvarado, même s'ils ne sont pas parents, leur passé de journaliste et un certain goût pour la chansonnette. Mais là s'arrêtent les similitudes entre les candidats au second tour de l'élection présidentielle qui se déroule aujourd'hui au Costa Rica. Les habitants de ce petit pays d'Amérique centrale, souvent cité en exemple dans la région, vont devoir trancher, Nabila Hamel, entre deux vrais projets de société.
Fabricio Alvarado, 43 ans, est un pasteur évangéliste, un petit candidat au départ qui a axé sa campagne sur son opposition au mariage entre personnes du même sexe. Il promettait d'ailleurs d'annuler un décret interdisant les discriminations contre les homosexuels. Il promettait également de modifier les cours d'éducation sexuelle. Une campagne commencée avec 3% d'intention de vote en décembre, avant de se qualifier pour le second tour de l'élection. Il reste à savoir s'il confirmera ce soir sa courte avance sur le candidat de centre-gauche Carlos Alvarado, 38 ans. Le Costa Rica est, vous le disiez, une des nations les plus progressistes d'Amérique latine avec un taux d'alphabétisation de 97,5%. Le pays n'a pas d'armée, il a développé l'écotourisme. L'indice de développement humain de l'ONU de 2016 le place en 66e position dans le monde et en 3e place en Amérique latine. Aujourd'hui, certaines voix au Costa Rica disent craindre un recul des libertés si le candidat évangéliste l'emporte. C'est la démocratie qui est en jeu, l'éducation, la culture, mais surtout les droits de l'homme, prévient l'économiste Leonardo Garnier, un ancien ministre de l'éducation. L'ex-défenseur des droits du Costa Rica, Montserrat Solano, écrit sur les réseaux sociaux « 200 ans après notre indépendance, nous devons décider si nous poursuivons le travail de nos ancêtres de perfectionner avec les sciences et la raison une république démocratique et l'état de droit, ou si nous perdons cet héritage face aux dogmes et à l'exclusion. » Fin de citation. Au Costa Rica, nous ne pouvons pas nous permettre de bafouer les droits de l'homme ni menacer de quitter les cadres légaux internationaux sur lesquels nous nous appuyons, a jugé de son côté la diplomate Cristiana Figueres qui a négocié l'accord de Paris sur le climat.
Nabila Hamel. Au lendemain d'une mobilisation massive des salariés de l'enseigne Carrefour pour le pouvoir d'achat et contre les dividendes des actionnaires, le ministre de l'économie invite les représentants de la grande distribution à Bercy en mai ou bien en juin. Venons-en à la grève à la SNCF qui commence donc demain à 19h, grève par salve de 2 jours par semaine jusqu'à la fin juin. Dernier épisode en date, une proposition de la direction qui a mis en colère les syndicats, une prime dite de conducteur occasionnel proposée aux cadres pour les inciter à conduire des trains. Bonsoir Jean-Marie Pernaud.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur à l'Institut de Recherches Économiques et Sociales. Je vous livre d'abord les quelques prévisions de la direction pour mardi. Elles viennent de nous parvenir. Taux de grévistes moyen de 48%, 77% des conducteurs en grève, 12% des TGV seulement circuleront, 13% des intercités. Une première quantification de votre part?
Ah, c'est un niveau de mobilisation attendu très élevé. Très élevé, qui dépasse même ceux qu'on avait connus au début du mouvement en 1995. Toute comparaison mise à part. Mais enfin, on a atteint là quand même un point très fort qui est supérieur à ce qu'il était le 22 mars, nettement. Je pense que le discours du gouvernement, l'annonce de cette prime, etc., contribue à alimenter, je pense, les tensions internes. Mais en tout cas, ça démarre très fort.
Jean-Marie Pernaud, la SNCF a connu bien des grèves depuis sa création en 1938, mais jamais une grève d'une telle facture. Quelle complexité au pluriel pour les syndicats?
C'est surtout que la conflictualité moyenne à la SNCF avait tendance à baisser depuis les années 2000 assez sensiblement. Et donc là, on assiste à un rebond. C'est d'ailleurs une des questions qu'on pouvait se poser à l'orée de ces mobilisations. Parce que l'entreprise a été profondément réformée, quoique en disent un certain discours public.
Au début des années 90, il y a eu la séparation, interne. C'est vrai.
Ouais. Les années 90, oui, mais aussi la réorganisation interne. Bon, il y a eu la séparation RFF le reste de
gestionnaire de réseau.
Mais du réseau, oui, mais il y a eu aussi des à l'intérieur du réseau lui-même. Hein, il y a eu une organisation en silo, il y a un certain nombre de solidarités entre les salariés qui ont été transformés par de nouvelles modalités d'organisation du travail. Et donc la question qu'on pouvait se poser, c'était ces réformes avaient probablement d'autres objectifs que cela, mais de facto, ils avaient réduit, disons, ce qu'on pourrait appeler la grande communauté de travail cheminote. En tout cas, ils avaient tendanciellement réduit un peu ces échanges, ce sentiment communautaire assez fort qui existait dans ce milieu-là. Et donc la question se posait de savoir si du coup les syndicats n'avaient pas perdu une certaine puissance d'action dans ce domaine. Et là, les premiers éléments tendent à répondre que non. Finalement, lorsque à la maison, il y a quand même un esprit communautaire assez fort. Je pense que le gouvernement a dû le sous-estimer.
Alors, il semblerait-il, l'ouverture à la concurrence, telle qu'elle a été présentée par le gouvernement, divise les syndicats. N'est-ce pas là le point de fragilité d'une acrobatique unité syndicale?
Alors là, c'est certainement une des difficultés qui va être difficile à gérer, c'est la question de l'unité syndicale, parce que bon, elle existe là, elle est extrêmement réactive, disons, hein, parce qu'elle s'appuie sur un sentiment assez fort dans l'entreprise, donc je pense que personne aujourd'hui ne peut trop se démarquer de cette réaction. Après, et on sait qu'il y a des discussions, hein, évidemment, entre certains officiels, d'autres probablement moins, pour essayer de fissurer ce front syndical. Il n'est pas exclu qu'il y ait des amorces dans ce sens, mais bon, c'est un des enjeux, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a les différences d'implantation syndicale chez les conducteurs, dans les ateliers, etc. Donc ça, et puis comment va jouer la direction de l'entreprise, le gouvernement, parce qu'on a plusieurs discours en même temps, donc tout ça est effectivement assez complexe. Mais bon, en tout cas, le rapport de force, pour l'instant, a l'air de se présenter plutôt bien pour les syndicats. Après, il va falloir tenir la distance. Hein. Autre complexité, parce que le moyen d'action qu'ils ont choisi n'est pas simple à mettre en œuvre. Bon, là, ça démarre très fort, mais il y a deux journées qui seront sans doute très, très suivies. Après, il va falloir recommencer. Hein. Et on sait que c'est pas un exercice extrêmement facile. Donc, autre moment où on jugera de la qualité, de l'enracinement de ce conflit. Du refus parmi le personnel.
Jean-Marie Pernaut, la SNCF reste l'emblème, l'empreinte du service public. Quelle perception, selon vous, quelle réception auprès de celles et ceux qui sont juste utilisateurs de la SNCF?
C'est un peu l'enjeu, parce que alors il n'est pas trop donné par les sondages de début de conflit comme ça, qui sont toujours un peu incertains, bien que les sondages montrent une petite évolution. Quand même, l'opinion se déplace plutôt en faveur des grévistes. Mais la question est moins là que de savoir quelle est la perception de la SNCF aujourd'hui parmi les usagers. Et c'est une image qui s'est quand même sensiblement dégradée depuis une vingtaine d'années. Hein. Depuis 95, c'est une donnée quand même importante. C'est cette politique de tarification, cette priorité à tout craint aux grandes lignes TGV et le manque d'investissement sur le reste du réseau, les pannes récentes qu'il y a eu, mental, des retards plus importants au fil du temps, les petites lignes qui ferment, etc. L'image de la SNCF auprès des usagers n'est pas celle qu'elle était il y a 20 ans, et je dirais même que la perception d'un service public n'est pas gagnée. D'ailleurs, la plupart des syndicats parlent de reconstruire le service public, et je pense que c'est cela qu'ils ont tout intérêt à faire percevoir à travers leurs propositions, hein. Et comment ceci peut-il être perçu par l'opinion? Il y a une bataille qui va se jouer là. Bon, le gouvernement, à mon sens, ne l'amène pas de manière très adroite.
Pourquoi, dites-vous?
Parce que faire croire que les difficultés de la SNCF sont liées au statut, c'est quand même une plaisanterie. Ça fait 20 ans qu'on réforme cette entreprise, et ce qui marche pas, on le sait très bien, ça n'a absolument rien à voir avec la question du statut, hein, qui est brandi pour évidemment dresser la population qui n'a pas cette protection de l'emploi qu'ont les cheminots, mais tout ça est quand même cousu d'assez gros fil blanc. Donc si les syndicats arrivent à complexifier un peu la perception de la population, et montrer qu'il y a quand même un enjeu du chemin de fer en France, c'est-à-dire de l'ensemble des transports d'ailleurs, eh bien peut-être ils peuvent passer, ils peuvent gagner. Maintenant, c'est vrai que les usagers, ils vont devoir marcher, faire du court
pendant quelques temps, et oui,
se débrouiller pendant quelques temps, et que bon, ça va probablement générer des mécontentements légitimes, hein, tout à fait compréhensibles en tout cas.
Merci infiniment, Jean-Marie Pernaut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut de Recherches Économiques et Sociales. Refermons cette édition avec la disparition du célèbre ténor français Michel Sénéchal, auteur d'une belle carrière internationale. Bonsoir Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir Mathieu.
Michel Sénéchal, doté d'une exceptionnelle agilité vocale.
C'est simple, Michel Sénéchal, c'est une carrière qui commence en 1956 et qui ne cessera jamais vraiment. Le ténor se meut avec aisance dans tous les costumes. Mythique, il incarne un inoubliable Ménélas dans La Belle Hélène d'Offenbach. Platé, aussi le rôle-titre de l'opéra de Rameau, une batracienne persuadée que Zeus s'était pris d'elle, rôle que Sénéchal interprétera toute sa carrière avec une bouffonnerie et une dérision jouissive. Mais il n'oublie pas non plus, Michel Sénéchal, les grands classiques. Mozart, évidemment, L'Enlèvement au Sérail, Les Noces de Figaro, La Flûte Enchantée. Il n'oublie pas non plus Georges Bizet. Vous entendez chanter Michel Sénéchal en français, le chant français. Michel Sénéchal s'est battu toute sa vie pour le réhabiliter, en particulier dans les conservatoires. Il avait d'ailleurs créé avec le chef d'orchestre Georges Prêtre l'association L'Art du chant français. Michel Sénéchal a tenu la note dans le monde entier, à New York, au Metropolitan Opera, au Festival de Salzbourg en Autriche, Opéra de Paris, Opéra Comique, un nom indissociable aussi du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, où il s'est produit 23 ans durant. Rendez-vous compte, Mathieu. Avec tout ça, vous l'aurez sans doute compris, c'est un pilier de l'opéra français qui nous quitte aujourd'hui.
Merci à vous, Louis, Valentin Lopez et nos camarades de France Musique vont rendre hommage dès demain matin à Michel Sénéchal. Quelques mots de la météo de demain lundi, temps pluvieux sur le nord-ouest, de faibles pluies de la Charente aux Ardennes ailleurs, ciel voilé, température à la hausse. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.